Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, la seconde émission Clap Cinéma à quatre jolies dames. Anne, Camille, qui finit son stage cette semaine. Laura, qui n'est pas très en forme. Laura, on sourit. Et moi-même. Bonjour à tous. Et on va chacune d'entre nous vous présenter un film. Et puis, en deuxième partie de l'émission, il y aura une surprise, un test. Ça marchera ou ça ne marchera pas. On verra bien. L'essentiel, c'est de parler de cinéma. Alors, c'est Anne qui commence. Et Anne, vous avez choisi quel film ?
Moi, j'ai choisi pour cette fois Little Jaffna de Laurence Valine. C'est un film tout récent qui a sorti il y a à peine un an. Et si vous vous rappelez bien, lors de notre précédent clap, j'avais parlé de The Big Lebowski. Et j'en disais que c'était devenu un film culte après une sortie un peu mitigée. Et bien, cette fois-ci, on n'est pas encore au stade du film culte, mais ce Little Jaffna, c'est une vraie perle qu'on devrait tous avoir vue. Et quand on l'a vue, elle vous reste en mémoire. Avec un nom à ne pas oublier, donc, Laurence Valine, qui est son réalisateur, mais aussi son scénariste et son acteur principal. Rien que ça. Alors, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Little Jaffna, c'est un quartier près de la gare du Nord, à Paris, où se retrouvent les exilés tamouls du Sri Lanka. Donc, il n'y habite pas, hein, mais il s'y retrouve. Jaffna, c'est la capitale de la partie tamoule du Sri Lanka. Alors, cette guerre du Sri Lanka, on la connaît très mal. Hein. Pourtant, elle a duré près de 30 ans. Mais Laurence Valine, lui, il a grandi pendant le conflit, en France, et il a baigné au quotidien dans le récit de cette histoire, de par ses parents et en particulier sa grand-mère. Voilà pourquoi il tenait à l'aborder. Donc, dans ce film, il est Michael Beaulieu. Il est donc le héros du film et jeune policier français d'origine tamoule. Ça peut lui permettre de passer inaperçu pour infiltrer un gang connu pour ses activités criminelles au profit des tamouls séparatistes du Sri Lanka. Grâce à ça, il nous infiltre aussi, nous, spectateurs, à la fois dans ce monde criminel et dans un univers totalement étranger dont nous ignorons tout alors qu'on est en plein Paris. D'emblée, il nous plonge dans le quartier avec la fête de Ganesh. Pas besoin d'explication pour comprendre où on se trouve, en fait. Nous voilà dans un thriller en multi-technicolor, si j'ose dire, qui prend à contre-pied les codes du polar. Dépaysement garanti. Avec le parti pris d'en faire un peu trop aussi dans la mise en scène. Mais le réalisme n'est pas la préoccupation principale de Laurence Valine. Et quand on voit certaines scènes de bagarre qui basculent délibérément dans le fantastique, on pense très fort au cinéma de Hong Kong des années 80, avec la même dose d'humour qui dédramatise les situations les plus violentes. Certains, les plus âgés, se rappellent peut-être Histoire de fantômes chinois, par exemple. Et à mesure qu'il s'enfonce au cœur de cette mafia, il se retrouve face à la question de sa double identité. Français et policier, il réalise aussi qu'il appartient réellement à la communauté tamoule. On ne dévoilera pas, bien sûr, quel sera son choix. Mais qui est donc le phénomène qui réalise un film pareil ? Laurence Valine a débuté comme acteur, mais il s'est fatigué d'avoir toujours des rôles de migrant, de vendeur de roses, de fakir. Il a eu envie de montrer autre chose que cet exotisme stéréotypé. Et il s'est créé sa place en devenant réalisateur, grâce à une bourse de la FEMIS, d'ailleurs dédiée aux non-étudiants en tant que tels de l'école, et en s'appuyant sur son histoire à lui, qui était l'enfant mi-tamoul, mi-français. Pour son premier film, il est aussi scénariste et comédien. Autant vous dire, c'est une découverte à ne pas manquer.
Merci Anne, et bien moi je l'ai manqué, donc j'irai bientôt voir Little Jaffna. On va écouter une musique du film. Le compositeur, c'est
Maxime Dussert.
Voilà, donc on écoute.
Thank you.
Alors, c'est au tour de Laura qui a choisi Babylone.
Alors, c'est un registre totalement différent de celui présenté par Anne. Mais donc, Babylone, c'est un film américain écrit et réalisé par Damien Chazelle en 2022. Damien Chazelle qui est déjà connu pour ses œuvres telles que La La Land et Whiplash. Donc, c'est un drame historique et accompagné d'une bande originale signée Justin Hurwitz, même si on ne va pas en écouter juste après. Le casting réunit Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Galva, avec également une apparition remarquée de Tobey Maguire, notamment connu pour son rôle de Spider-Man. L'intrigue se déroule dans le Los Angeles des années 20 et propose une fresque marquée par l'ambition, la démesure et les excès. Le film suit l'ascension et la chute de plusieurs personnages au moment de la naissance d'Hollywood, dans une époque dominée par la décadence et la dépravation. Il s'attarde particulièrement sur la fin des années 20, période charnière correspondant au passage du cinéma muet au cinéma parlant. Le film apparaît comme une véritable déclaration d'amour au 7e art, notamment dans ses dernières minutes, à travers une séquence magistrale qui rend hommage à l'histoire du cinéma, en réutilisant des images emblématiques ayant marqué son évolution. Donc, par exemple, il y a des séquences des premiers films de Méliès, de Chaplin, jusqu'à par exemple des œuvres majeures comme 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, Matrix ou encore Avatar plus récemment. Le long métrage dévoile également les coulisses des tournages de l'époque, très éloignées des pratiques actuelles, tout en mettant en lumière les excès du milieu. Il montre par exemple comment étaient réalisés les films muets, plusieurs studios tournaient simultanément en extérieur, souvent côte à côte d'ailleurs, puisque l'absence de prise de son permettait une grande liberté de mise en scène. Vraiment dans le film c'était incroyable cette scène, on voit vraiment en pleine nature plusieurs studios côte à côte, et en fait puisqu'il y a la caméra qui se focalise que sur un seul, et que c'est en noir et blanc, qu'il n'y a pas de musique et tout, bah en fait, on voit même pas, on s'imagine même pas ce qui se cache aux alentours. Et je trouvais ça assez pertinent parce qu'on n'en parle pas forcément justement des coulisses du cinéma muet. Malgré un échec au box-office américain, le film a été mieux accueilli en France où la critique s'est montrée plus enthousiaste. Le récit aborde notamment l'évolution du star system et l'arrivée du premier film parlant, Le Chanteur de Jazz, tout en s'inspirant en partie du livre Hollywood Babylon. Aux États-Unis, les avis restent divisés. Certains reprochent sa durée, parce que le film il fait près de 3 heures, et son caractère très explicite. L'œuvre se distingue toutefois par son ampleur spectaculaire et son exubérance, notamment lors d'une séquence quasi infernale, donnant l'impression d'une descente aux enfers impliquant le personnage incarné par Tobey Maguire. Vraiment, c'est une séquence exceptionnelle, très sombre aussi. Sur le plan historique, le film rappelle aussi que de nombreuses stars du cinéma muet ont vu leur carrière s'effondrer avec l'arrivée du parlant, souvent parce que leur voix ne correspondait plus aux attentes du public. Enfin, comme dans la plupart des films de Damien Chazelle, la musique occupe une place essentielle. Parce que c'est un grand amateur de jazz, donc il imprègne son œuvre de cette influence. Et Babylone n'en fait pas exception. Parce qu'en plus, comme j'ai dit précédemment, avec l'évocation du premier film parlant, Le Chanteur de Jazz.
Le jazz, oui.
Du coup, effectivement, on suit la carrière d'un personnage et qui justement va finir par jouer dans ce film.
Et c'était un blanc grimé en noir.
Ouais, c'est ça. Mais je crois que dans le film, c'est pas exactement ça. Il le dépeint pas comme ça, il l'illustre pas comme ça, mais en tout cas, bon.
Dans la vraie vie, voilà, c'était okay. Un blanc, un noir ne pouvait pas avoir un rôle principal.
Ok, mais je crois que ça, ils en parlent justement parce que... Voilà, mais regardez le film en fait, tout simplement. Et si je devais résumer ce film, je dirais que justement, il est très spectaculaire. Il est très intéressant au niveau histoire du cinéma, en tout cas si on s'y intéresse au début. Et aussi qu'il est vraiment magnifique avec des plans et une photographie absolument sublime.
Merci Laura, on sent toute cette passion du cinéma et puis cette passion pour les acteurs. On en reparlera tout à l'heure, la passion pour les acteurs. Alors, Camille, vous avez fait un choix qui m'a étonnée, parce que là, on est plutôt dans des films récents. Et vous, toute jeune, vous choisissez un film ancien. Alors,
c'est
pourquoi
ça. Alors, moi, j'ai choisi Peau d'âne. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Jacques Demy, qui a été connu surtout pour Les Parapluies de Cherbourg. Le film est porté par des acteurs comme Catherine Deneuve, Jacques Perrin ou encore Jean Marais. Et la musique est composée par Michel Legrand, qui a beaucoup, beaucoup collaboré avec Jacques Demy sur Les Parapluies de Cherbourg, encore une fois. Et Les Demoiselles de Rochefort. Sorti en 1970, l'histoire de Peau d'âne repose sur le conte du même nom de Charles Perrault. Donc vous devez sûrement tous connaître déjà l'histoire, mais pour raviver un peu la mémoire. Donc c'est l'histoire d'une reine mourante d'un royaume enchanté, et elle ordonne à son mari de n'épouser en secondes noces qu'une femme plus belle qu'elle. Or, seule la fille surpasse en grâce et en beauté. Le roi demande la main de cette dernière. La fée des Lilas conseille alors à sa filleule de feindre les plus extravagants caprices afin de décourager les assauts paternels. Donc ce qui marque beaucoup dans Podane et ce qui revient souvent, c'est les visuels. Tout est extrêmement coloré et très extravagant. Par exemple, les sujets du roi et les animaux sont peints en bleu et en rouge. Les robes de Podane sont complètement excentriques et les décors sont saugrenus et très fantasques. Et tout ça, ça contraste énormément avec le climat lourd qui est installé par un conte très incestueux, le père qui veut demander sa fille en mariage. Les choix esthétiques sont quand même assez surprenants, mais pour autant, ça crée une harmonie entre le décalé et un conte particulièrement glauque. Jacques Demy a su passer outre une histoire malsaine et étrange pour en faire un film artistique très peu commun. J'ai rarement revu des visuels comme il y a pu avoir dans Podane. Et je l'ai vu quand j'étais vraiment toute petite. Et pourtant, il m'a marqué pendant très longtemps. Que ce soit les robes magnifiques portées par la princesse ou cette fameuse du coup peau de l'âne qu'elle porte tout au long du film pour disparaître de son père, le roi. Et pour conclure, je voulais finir sur une citation d'un critique qui dit « Prenant à bras le corps le conte de Perrault, Demy en garde la cruauté, mais surtout le merveilleux. » Et je trouve que ça résume assez bien l'atmosphère de ce film, qui est quand même basé sur une histoire très, très étrange et très très malsaine. Et ça en fait quelque chose de très beau, esthétiquement parlant.
Merci Camille. C'est vrai que vous n'avez pas cité l'actrice qui joue la fée Lila.
Delphine Seyrig.
Ah oui, et sa voix absolument magnifique. C'est elle qui m'a fait aimer le film parce que cette histoire d'inceste, moi, m'a toujours gênée. Même petite, j'aimais pas ce film. Et puis la scène de l'hélicoptère.
Complètement décalée avec le reste de l'histoire.
Alors, c'est une histoire d'amour, peut-être malsaine, mais c'est une histoire d'amour. Et puis le prince et Catherine Deneuve chantent souvent Amour, amour. Donc, on écoute. À mon tour, et moi j'ai choisi Gosford Park, qui est un film sorti en 2001 sur un scénario de Julian Fellowes, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario et réalisé par Robert Altman. Et c'est un film qui se passe en Angleterre dans les années 30 Et ça montre vraiment la vie de ces très riches aristocrates anglais. Les décors sont magnifiques, c'est filmé dans plusieurs lieux. Et il y a même des... Laura parlait des tournages, des studios. Il y a des reconstitutions aussi en studio. Alors, c'est un film qui s'inspire de La règle du jeu de 1939 de Jean Renoir, avec une partie de chasse. Mais la particularité de Gosford Park, c'est qu'il y a un meurtre. Le propriétaire est assassiné et ça se transforme en Cluedo. Et moi, particulièrement, je n'ai pas du tout apprécié le commissaire qui est complètement à l'ouest, qui cherche aucun indice. Donc, pour moi, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un Cluedo, c'est plutôt montrer comment vivaient ces aristocrates et surtout la différence entre les pièces d'apparat où tout est magnifique, mais tout est aussi très malsain, on disait tout à l'heure. Et puis, parce qu'ils ont tous des problèmes financiers, ou ils ont tous des malheurs, ou ils ont été mariés de force, ou enfin bon, c'est odieux, cette autre aristocratie anglaise. Et puis, les cuisines, les couloirs, où il y a la vie des domestiques. Et je ne vais pas vous citer tous les acteurs, mais j'avais surtout remarqué Len Mirren, qui jouait un rôle un peu en dehors de ses habitudes, très introvertie, la gouvernante, et elle fait un très très beau, une très belle composition. Alors, bien sûr, il y a Maggie Smith, et ça me permet de... qui là est vraiment une aristocrate assez odieuse envers sa domestique. Et si j'ai choisi Gosford Park aussi, c'est parce que Julianne Fellowes n'avait pas du tout l'idée de faire une série. Mais on a dit souvent que Downton Abbey était la suite de Gosford Park, et pas du tout. En fait, il a repris un thème et puis pensait jamais en faire 6 saisons. Donc c'est intéressant de regarder Gosford Park en se disant qu'est-ce que ça va devenir plus tard, est-ce que ça va être inspiré une saison. Et c'est un film qui est intéressant. C'est une comédie dramatique d'un peu plus de 2 heures. Et je vous le recommande, c'est pas très récent, mais je vous le recommande. Alors dans cette deuxième partie, on va vous faire deviner un film dont nous allons discuter toutes les quatre. Nous les avons toutes les quatre vues, n'est-ce pas Anne?
Oui, certainement.
Mais certainement. Et je vous le laisse le deviner en écoutant la bande-annonce.
Tenez, large.
Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir, lui et moi.
J'essaye de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas, alors qu'on aurait pu être réunis.
Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon, pendant des années.
Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardé tous les deux.
Quelle chance de vous avoir trouvé.
Ah, ça c'est sûr, il y a de la chance, lui, hein.
Pour la moelle, ça a marché. Par contre...
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Maintenant, j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec.
Putain, moi je plombe en plus.
Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone?
Puis tu sais, ici, c'est fanfare ou foot, hein.
Notre chef nous a plaqué lâchement.
T'es malade, toi?
Mais vous avez pas un remplaçant?
C'est toi qui dois diriger.
Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre, toi, non plus, hein.
Je vais t'aider. Allez, viens.
Attends, non, hé, j'ai pas dit oui, hein.
Mais c'est super, Jimmy, c'est super.
Qu'est-ce que c'est super? On n'entend rien.
Bah non, mais je te vois, ça le fait grave.
Oh.
Tu vois?
Faut avoir de l'ambition.
Tu sais quoi, putain, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique.
Moi, je dirige une école.
Tu paries?
Tu veux un bulletin scolaire?
Alors c'est ça, la vie qu'on aurait dû avoir.
Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi?
Ouais, hein? Tu m'appellerais comment?
Je sais pas, moi, un prénom normal, genre Jordan ou un truc comme ça.
Ah, ouais.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous avons donc posé une devinette. Avez-vous reconnu cette bande-annonce? Nous avons parlé du film déjà dans un précédent clap, parce que c'est un des films préférés de Laura, avec un acteur préféré aussi. Donc, vous avez deviné, En fanfare, un film présenté en avant-première au Festival de Cannes en 2024. 7 nominations au César, une distribution étonnante, la réalisation est d'Emmanuel Courcol et il y a en vedette Benjamin Laverne, n'est-ce pas Laura ?
Ah mon foufou.
Nous avons l'affiche dans le studio et puis Pierre Lottin, donc c'est deux frères. Et Laura, je vous laisse raconter un petit peu l'histoire et puis nous intervenons si on a envie de dire quelque chose.
Alors, je vais essayer de tout mettre en ordre, mais en gros, l'histoire, c'est qu'il y a le personnage de Benjamin Laverne, Thibaut Desormeaux, qui est chef d'orchestre et qui découvre qu'il a une leucémie. Donc, il essaye, ils font des tests et, avec sa famille proche et ils se rendent compte qu'en fait...
Il n'y a pas de donneur
et qu'il a un frère. Et donc, il s'en va dans le nord, dans le nord, je crois qu'ils habitent. Il rencontre son frère, Jimmy, interprété par Pierre Lottin, et ils découvrent tous les deux qu'ils ont été adoptés à la naissance par deux familles différentes qui appartiennent vraiment à deux classes sociales différentes.
C'est pas des jumeaux, ils ont une différence
d'âge. Non, c'est pas des jumeaux. Après, le film se concentre surtout sur l'évolution de la relation entre les deux frères, ce qui les oppose, en même temps ce qui les rassemble. Ce qui les rassemble, c'est la musique. Et aussi, c'est marrant parce que la dichotomie se crée aussi... Parce que au niveau de la musique, parce que Benjamin Laverne est chef d'orchestre, donc
classique,
alors que Pierre Lottin est dans une fanfare de village, quoi.
Et il a un très mauvais caractère, ce Pierre Lottin. Ah, c'est vrai que l'affrontement entre les deux. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film, Anne, Camille?
Ben, disons que moi, s'il faut parler, il me faut parler la première pour donner mon avis. Ben, il se trouve que je n'ai pas beaucoup aimé ce film.
Mais tu sais.
Alors évidemment, premier coup d'œil, on peut le regarder agréablement, mais si on veut creuser un petit peu, le film, il est trop formaté, quoi. C'est-à-dire que...
Oh, Laura est en train de pâlir.
Je pleure.
On se sent ligoté par le choix du scénario, où chaque émotion est systématiquement tempérée dès qu'il y a une scène un peu lacrymale. Mmh. Donc, il y a un rythme chronométré, et toutes les greffes, que ce soit les greffes médicales ou les greffes sociales, bon, c'est toujours quelque chose de difficile. Et là, l'idée, c'est la rencontre d'un milieu bourgeois avec un
milieu populaire,
ouvrier, disons, ce chef d'orchestre municipal de fanfare. Et
oui, on a compris, Anne, c'est pas votre tasse de thé. Et Camille ?
Je rejoins Anne sur son avis. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et d'un premier coup d'œil, j'ai apprécié. C'est un film qui se regarde, c'est pas le pire film. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est assez cliché sur les classes sociales qui se rencontrent. Thibaut qui va rencontrer son frère qui est populaire et qui vient le sortir un peu de ça. J'ai trouvé ça très cliché, très stéréotypé. Par contre, la bande originale, j'ai beaucoup aimé. La musique était très, très bien réalisée. Mais c'est vrai que je n'ai pas apprécié beaucoup ce film.
Alors moi, je dirais qu'il y a le jeu d'acteur. Hein. J'ai surtout été, moi, attirée par le jeu d'acteur, parce que Benjamin Laverne et Pierre Lottin arrivent vraiment à montrer un petit peu des sentiments. Comme vous, Camille, j'ai beaucoup apprécié la bande-son. Et puis moi, qui habitais le Nord longtemps, je trouvais que c'était un bel hommage au Nord, au pays minier, et l'harmonie des mineurs qui est dans le film, c'est une vraie harmonie. Hein. Il y a quelques acteurs professionnels qui se joignent à eux, mais ce sont vraiment les mineurs. C'est l'Alain dans le 59, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Justement, moi je trouvais qu'il y avait deux films, en fait. Il y avait les mineurs, et puis il y avait le milieu bourgeois, qui est beaucoup moins sympathique. Moi, j'ai été très marquée par la mère du milieu bourgeois, Ludmila Michael, qui, en fait, n'a pas adopté les deux enfants parce que le père ne voulait pas. Et je trouvais que ça, c'était intéressant, alors que la mère adoptive du Nord n'a... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et on va finir tout de même avec Laura, qui va nous faire l'apologie de ce film.
Si je peux me permettre, quand même, il est vrai que les deux comédiens sont formidables. Ça, on ne peut pas leur dire.
Ah, merci. Au moins une bonne chose, quoi. Enfin.
Ah non, mais moi, j'ai dit beaucoup de bonnes choses
c'est vrai.
Aussi.
Mais non, mais pour en revenir au stéréotype qu'a énoncé Camille, en fait, je pense qu'il y a aussi cette volonté de rendre le film le plus accessible à tout le monde et justement de pas créer une discrimination justement dans le visionnage du film par rapport aux différentes compréhensions qu'on peut avoir d'où on vient, enfin selon tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il a essayé de rendre son film un peu facile entre guillemets et de mettre des stéréotypes évidemment qui existent voilà pour le rendre accessible au plus grand nombre.
C'est vrai que la scène de la fin, là, on ne spoil pas. Quand il y a cette grande représentation, bon, c'est un peu tire-larme, mais en même temps, bon, ça se regarde. Et puis la fin est tout de même très particulière et très prenante. Hein, bien sûr, on ne la dévoile pas. Et il y a tout de même un scénario intéressant, même s'il y a des clichés, je suis d'accord. Et ça a fait tout de même beaucoup d'entrées. Il y a eu beaucoup
mais
de.
C'est
de
pour César. Ça que je pense. Il n'a pas été récompensé, mais il y a eu beaucoup de nominations. Mais justement, il a fait beaucoup d'entrées. Et je pense que c'est parce que c'est un film qui a un peu parlé à tout le monde. Mais peut-être à des degrés différents en fonction de... Peu importe d'où on venait, de quelle classe sociale à laquelle on appartient. Le film était accessible à tout le monde. Et donc, tout le monde a pu le comprendre.
Et c'est un film de partage, justement. C'est ça qui est intéressant. Parce que je vois le nombre d'entrées. C'est énorme. Hein, 2,5 millions d'entrées. Et plus de 400 000 en France et 400 000 entrées en Allemagne. Donc c'est un...
Et c'était tout à fait imprévu.
Imprévu, en fait. Tout à fait. C'était programmé pour une semaine ou deux, et puis en fait, voilà. Ça a duré des semaines et des semaines.
Il est resté très longtemps au cinéma.
Très longtemps. Eh bien, merci à toutes les trois. Et puis, on reprendra nos claps cinéma à trois. On souhaite une bonne continuation à Camille dans d'autres stages.
Au revoir.